Vous êtes sur RTL. RTL Soir, Thomas Soto.
Et Aude Vernuccio pour le journal. Bonsoir Aude.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
À la une ce soir, les Français attablés en terrasse pour le premier match des Bleus dans le cadre de l'Euro de football.
France-Allemagne, c'est ce soir à 21h. On ira du côté des terrasses parisiennes et du stade à Munich. Les joueurs sont en approche. Alain Coq a mis fin à ses souffrances. Il a eu recours au suicide assisté en Suisse. Et puis les producteurs de vin et de spiritueux français peuvent souffler. Fini les droits de douane exorbitants pour exporter aux États-Unis.
RTL Soir.
Premier match des Bleus dans le cadre de l'Euro ce soir. La France affronte l'Allemagne à 21h à Munich et les joueurs sont en route pour le stade Nicolas Georgerot. Vous êtes à l'Allianz Arena de Munich.
Oui, sur le point, effectivement. Ils quittent leur hôtel au nord de Munich dans une poignée de minutes à 19h10 précise. Un court trajet de quelques kilomètres. Les champions du monde seront là vers 19h25 pour venir tout d'abord quelques instants sur la magnifique pelouse de l'Allianz Arena avant de rentrer au vestiaire se préparer. Un écrin, une enceinte splendide, deux tifos brandis par les supporters des deux équipes. Les drapeaux français et allemands se dessinent dans les deux virages du stade. 14 000 personnes au total. 2500 supporters tricolores donneront de la voix pour que les Bleus entame de la meilleure des façons. 7 euros, Griezmann, Mbappé, Benzema attendus en attaque. C'est une équipe de France sans surprise qui devrait se présenter face aux champions du monde 2014. Les deux nations n'ont jamais perdu leur match d'ouverture à l'Euro depuis 40 ans, ça promet.
Nicolas Georgerot à Munich pour RTL, match à suivre ce soir en intégralité dans RTL Foot avec une spéciale qui débutera dès 20h qui sera présentée par Eric Silvestro.
En France aussi, les supporters se préparent aux terrasses de café, les écrans et les décos bleu, blanc, rouge sont en place. Vincent Serrano, vous avez sillonné la capitale et l'ambiance monte crescendo.
Oui, bien sûr. L'ambiance qui monte sur cette terrasse avec la bande à Antoine. Je dis bien la bande parce qu'ils sont arrivés à 10-15 depuis le 93 pour trouver une place. Carrément. Antoine, vous avez déjà le drapeau sur les épaules. J'ai l'impression que le match est dans 2 heures.
Le match, il est dans 2 heures, mais on n'a aucun match à la maison. Ça nous donne encore plus envie de ramener la coupe à la maison. On est prêt, on est chaud.
L'atmosphère est là. Les terrasses sont blindées, donc on a tous la joie. En fait, pendant un an et demi, on a chié chez nous. Là, il y a l'euro, on a tous la bonne humeur.
La bière, le feu.
On a tout le feu jusqu'à 23h, donc on va donner au max pour les Bleus ce soir.
Ouais, Mathéo, c'est ça, c'est qu'il y avait un contexte particulier.
Ça, il y avait le Covid, tout ça. On veut juste sortir de chez nous, on veut juste kiffer avec tous les Français, tout le monde. On était là pour la Coupe du Monde, on veut qu'à l'euro, ça soit pareil qu'à la Coupe du Monde. On veut juste kiffer et ça va être incroyable.
Un pronostic pour ce soir.
3-0 pour la France.
Ah oui, quand même,
c'est important. On croit en nos bleus, on croit en Didier Deschamps, on croit en toute l'équipe. Ça va être important. On est champion du monde, les champions du monde au titre. On va montrer à tout le monde qu'on est là.
Un petit cri quand même pour les bleus. Voilà, vous voyez, il y a déjà de l'ambiance.
Oui, je vois ça. Vincent Serrano, merci à vous. En direct des terrasses parisiennes pour RTL.
Les gens qui crient ne pensent pas aux présentateurs qui ont des casques.
Et non.
On rappelle que le couvre-feu est maintenu à 23h ce soir, mais quand même que le ministre de l'Intérieur a demandé dans une note aux préfets et aux policiers d'appliquer les règles avec mansuétude. Comprenez, il y aura un peu d'indulgence au moment du retour à la maison. Ne traînez pas trop, mais pourrez voir le match jusqu'au bout.
Et puis un autre match en cours, cette fois la Hongrie qui affronte le Portugal. Baptiste Durieux, où en est le score?
Bonsoir Aude, effectivement, début de deuxième période, 0-0 toujours. Les Portugais qui attaquent et la Hongrie qui résiste. C'est vraiment le schéma de ces 45 premières minutes à l'image de Diogo Jota ou Cristiano Ronaldo qui a manqué un ballon à quelques centimètres de la barre transversale, mais effectivement toujours 0-0 entre la Hongrie et le Portugal à Budapest.
Je n'ose vous dire de nous rappeler quand il y aura un but, puisqu'il n'y en a pas, hein, mais depuis le début, ça fait une heure qu'on vous le demande, mais n'hésitez pas. L'offre reste valable.
Je l'attends aussi.
Merci Baptiste.
Merci à vous Baptiste Durieux. L'épidémie poursuit sa décrue à l'hôpital, mais le variant Delta venu d'Inde inquiète le ministre de la Santé. Olivier Véran appelle à la prudence.
Actuellement en France, 2 à 4% des tests que nous criblons correspondent à du variant indien, ce qui représente quand même de l'ordre de 50 à 150 nouveaux diagnostics de variant Delta dans notre pays. Je vous dis cela évidemment pour vous enjoindre à ne pas relâcher votre vigilance collective. C'est certainement pas le moment. On est en train d'écraser le virus et d'écraser l'épidémie. J'entends tous les débats qui portent sur la fin du couvre-feu, la fin du port de masque. J'entends évidemment cela et j'entends cette attente de la population à l'heure où on a le sentiment que l'épidémie serait presque derrière nous. Ce n'est pas encore terminé. Et l'exemple de nos voisins anglais, je le redis, qui ont un fort taux de couverture vaccinale, doit nous enjoindre encore à la prudence, encore au courage, encore à la solidarité.
L'appel au maintien de la vigilance d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, dans un centre de vaccination du 15e arrondissement de Paris. Il évoquait les Britanniques, ils ont dû mettre leur déconfinement sur pause à cause précisément de la montée des cas du variant indien, le variant Delta, comme on l'appelle.
Et puis ça y est, Thomas, la vaccination des ados est lancée depuis ce matin. Les 12-17 ans peuvent se faire piquer avec l'autorisation des deux parents. Autre nouveauté, plus de souplesse pour le délai entre les deux doses. Pour un vaccin Pfizer ou Moderna à ARN messager, vous pourrez prendre le deuxième rendez-vous de 3 à 7 semaines après la première injection.
RTL Soir, il est 19h05. Il militait pour une fin de vie digne. Alain Coq s'est éteint aujourd'hui en Suisse où il a eu un suicide assisté.
Un suicide assisté, atteint d'une maladie incurable et douloureuse pendant 35 ans. Il nous avait parlé de sa souffrance sur RTL en septembre 2020 au micro de Nerissa Emani.
Arrivé à un stade, il y a le supportable et l'insupportable. Moi, pendant 34 ans, j'ai dépassé ma maladie. Bon, elle se réveillait régulièrement, mais elle me permettait de vivre. Maintenant, je veux m'endormir et ne plus souffrir.
Ce matin, il a décidé de mettre fin à ses jours paisiblement dans un hôpital de Berne après avoir essuyé les refus des autorités françaises. Sophie Medjeberg, sa mandataire, l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle.
Il était vraiment au bout. Il n'était plus que souffrance, des nuits très courtes. Vous savez, quand vous êtes allongé, que le moindre mouvement vous déclenche des décharges électriques dans tout le corps, que vos organes vous lâchent les uns derrière les autres. Ça faisait 3 ans qu'il était en train de s'éteindre doucement. Il m'a dit, je n'ai plus de force. Ça s'est passé très vite, c'est-à-dire que il est arrivé, on l'a préparé, on lui a donné son comprimé, et en 2 minutes, il n'y avait plus personne. Une dernière boutade et il s'est endormi. Là, il avait vraiment envie d'en finir et il était heureux de partir. Il m'a dit qu'il comptait sur moi pour continuer son combat.
Propos recueillis par Frédéric Perruche pour RTL. Alain Coq qui a d'ailleurs adressé une dernière lettre au président et aux parlementaires dénonçant le manque de courage de la classe politique.
On marque une courte pause et ensuite on va s'intéresser au procès en appel de Willy Bardon dans l'affaire Élodie Kulik. L'accusé clame toujours son innocence.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
19h09, la suite du journal Audernuccio, deuxième jour d'audience dans le procès de Willy Bardon. C'est l'homme qui est accusé d'avoir violé, séquestré et tué Élodie Kulik.
Procès en appel devant la cour d'assises du Nord. L'accusé clame toujours son innocence. Sa personnalité a été passée au peigne fin aujourd'hui et ses proches dressent de lui le portrait d'une grande gueule, mais loin de l'image d'un monstre, Franck Hanson.
Oui, avec lui, j'ai trouvé de l'amour, du respect. Aurélie, installée avec Willy Bardon depuis 2013, n'en démord pas. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Face à la cour, la jeune conseillère financière doit s'expliquer sur ses pratiques sexuelles. On essayait un peu tout. C'est une grande gueule qui aimait bien boire un coup, mais il ne supportait pas qu'un homme s'en prenne à sa femme. Pour lui, elle a même monté un comité de soutien.
Celui qu'on a décrit et celui avec qui je vis tous les jours, c'est pas du tout le même. Il est dragueur, il aime bien qu'on l'aime. Il fait des blagues graveleuses, ok. Mais ça va pas plus loin que ça, il est pas plus méchant que ça. Rien qu'une petite série du genre X-Files ou Grey's Anatomy, il peut pas le regarder parce qu'il en a peur ou qu'il aime pas le sang et s'est déjà évanoui quand un de nos copains s'est ouvert le crâne. Alors faire ça, non, il est pas comme ça.
Le ton toujours assuré, plus combatif, Willy Bardon dans son box persiste aussi. C'est invivable qu'on vous enferme pour quelque chose que vous n'avez pas fait. L'avocat général lui rétorque qu'il peut s'emporter facilement, désinhibé par l'alcool, mais il n'a jamais été condamné, rappelle son avocat. En face, Jackie Kulik, qui a posé un portrait de sa fille à côté de lui, reste toujours aussi convaincu de son implication.
Franck Hanson à Douai pour RTL. Les suites de l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia, Rémi Daillet et sa famille sont dans l'avion entre Singapour et Paris, selon le procureur de Nancy. Ils arriveront demain matin. Figure des théories complotistes, il est soupçonné d'avoir participé au kidnapping de l'enfant dans les Vosges en avril dernier. Il sera transféré immédiatement à Nancy en vue de sa mise en examen ou présenté à un juge pour une incarcération provisoire.
Dans l'actualité de ce mardi soir, on retiendra également le gros soulagement pour les producteurs de vins et spiritueux européens. Et la lumière est venue d'un sommet Union européenne-États-Unis.
Accord trouvé pour suspendre pendant 5 ans les droits de douane pris sous l'administration Trump. Mesure de représailles dans l'affaire des aides illégales versées aux avionneurs Boeing et Airbus. Bénédicte Tassard, on parle de plusieurs milliards de dollars de marchandises.
Ah oui, chaque année, 7,5 milliards de dollars, un peu moins de 7 milliards d'euros de biens et services européens étaient soumis à des taxes à hauteur de 25% pour les vins, les spiritueux, 15% pour les Airbus. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Belgique. Même topo, 4 milliards de dollars d'exportations américaines surtaxées, dont les Boeing quand ils arrivaient sur le sol européen. Une guéguerre dont les deux continents ont donc pâti. La hache n'est pas complètement enterrée. Le sursis est signé pour les 5 ans à venir, mais la volonté est bien là. Le contentieux, il existe depuis 2004, parce que des aides publiques illégales, vous l'avez dit, Aude, avaient été versées par les États européens à Airbus et par Washington à Boeing. Trump avait envenimé le dossier en décidant de droits de douane très costauds. Mais aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Parce que Joe Biden veut avant tout consolider son alliance avec les Européens face à la Chine. Cependant, il reste un autre contentieux à régler d'ici décembre prochain, espère Bruxelles, celui de l'acier et de l'aluminium européens, également surtaxés quand ils partent aux États-Unis.
Explication signée Bénédicte Tassard. Et puis un dernier mot de sport pour terminer. Il a hâte de revenir après 2 ans d'absence. Le Britannique Chris Froome fera son comeback sur le Tour de France cet été. Le quadruple vainqueur est à la peine depuis sa chute sur le Dauphiné. C'était en 2019. Il avait été victime de multiples fractures.
Merci à vous, Aude. On vous retrouvera tout à l'heure à 20h. La météo, Peggy. Pour avoir de l'air, ça ne sera pas demain.
Ah, ça va être compliqué parce que les températures vont encore grimper, même au nord, 36 à Auch comme à Bourges, 35 à Paris et Orléans, 34 à Ambérieu, Cognac, Montélimar, 33 degrés à Reims et Nancy, 32 à Rouen et Alençon, 29 à Montpellier et 24 à Brest. Alors encore beaucoup de soleil demain, juste petit bémol le matin sur la façade atlantique avec une petite ondée possible très localement. Et dans l'après-midi, l'instabilité orageuse va concerner l'ouest entre la Loire et les Pyrénées, quelques averses orageuses mais localisées. Et entre la Bretagne et la Normandie, là, la dégradation sera plus active, donc avec de fortes pluie orageuse, accompagnée parfois de grêle. Mais sur une large partie est du pays, dès les Hauts-de-France, Île-de-France, Centre, Limousin et toutes les régions à l'est, encore du beau temps, juste une petite averse orageuse possible en montagne sur les Alpes et la Corse.
Alors le qualificatif à retenir pour la suite, pour après-demain et la suite, c'est orageux.
Exactement, vous avez tout compris. Jeudi, nouvelle dégradation orageuse qui va remonter par l'Aquitaine et concerner toute la moitié ouest, sauf la Bretagne et la Normandie. À l'est, ça restera beau et très chaud. 37 degrés à Strasbourg, alors qu'il n'en fera plus que 22 à Rennes, donc fort contraste entre l'ouest et l'est. Vendredi, des orages généralisés, beaucoup de pluie entre les Hauts-de-France et le Poitou. Et ce week-end, petit accalmie avec moins de pluie, mais encore quelques coups de tonnerre ci et là, sous des températures en baisse, mais on aura encore bien chaud, une moyenne de 26 au nord et 28 au sud.
Merci, Peggy.